L'éducation, plus que jamais prioritaire.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Et nous enregistrons cette émission alors que les premières vacances scolaires de l'année s'annoncent en fin de semaine comme une pause bienvenue. Les foyers de contamination de Covid dans les écoles inquiètent. La fatigue due aux conditions plus difficiles de la classe se fait douloureusement sentir, tout comme le sentiment d'incertitude partagé par tous, dans et hors de l'école. Dans ce contexte si particulier, nous souhaitions parler de l'enseignement prioritaire en tension aujourd'hui. Les REP, c'est la chronique actuelle, sont sans cesse repensées, réformées. Une nouvelle secrétaire d'État déléguée, Nathalie Elimas, est d'ailleurs en charge du dossier depuis la rentrée. L'éducation prioritaire est aussi très étudiée. Ainsi vient de paraître une évaluation de l'Observatoire des zones d'éducation prioritaire, l'OZP. Nous avons invité un représentant de l'association pour en parler. Avec nous également Rachel Boutonnet qui raconte son quotidien de maîtresse en REP dans un ouvrage paru à la rentrée. Asma Chatouani, parent d'élève à Pantin, qui se bat depuis des années pour améliorer les écoles de ses enfants. Aziz Gelab, universitaire spécialiste de l'école, qui dresse un bilan des politiques de l'éducation prioritaire dans un tout récent livre très instructif. Et enfin Caroline H, une enseignante devenue maître de conférence en sciences de l'éducation, qui nous parlera de l'excellence scolaire dans l'éducation prioritaire, où l'on accueille nombre de bons, très bons et brillants élèves. Et on commence cette émission comme il est désormais coutume avec notre question d'actualité. Aujourd'hui, l'ouverture du recrutement des grandes écoles. Bonjour David Guilbeault.
Bonjour.
Vous êtes haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA et auteur de L'illusion méritocratique chez Odile Jacob, un livre pour lequel nous vous avions reçu il y a 2 ans. On est passé de 4% d'élèves dont le père est ouvrier en 2006 à 1% d'élèves dont le père est ouvrier, donc à l'ENA. La promo 2019-2020 de l'ENA compte 76% d'élèves dont un père exerce une profession dite supérieure. Je cite Amélie de Montchalin. Elle est ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Elle a annoncé dans Le Monde qu'à partir de 2021, des places allaient être réservées aux candidats issus de milieux modestes dans tous les futurs concours de la fonction publique, au moins à titre expérimental. Alors, ça ne concerne pas que l'ENA, toutefois, ça concerne l'ENA, David Guilbeault. Comment accueillez-vous cette nouvelle ?
Écoutez, le diagnostic que pose la ministre, évidemment, moi, je le partage. On sait que toutes les catégories de la société ne sont pas représentées au sein des cadres de la fonction publique et aujourd'hui, on ne peut plus ignorer cette difficulté-là. Et donc on a un peu de choix, soit continuer à faire comme on faisait jusqu'à présent, donc avec des vœux pieux qui appellent les étudiants issus de milieux modestes à dépasser l'autocensure. Le directeur de l'ENA actuel a pu tenir ce genre de discours. Soit on essaye de nouvelles choses, et là c'est ce qui se profile avec cette éventualité d'une voie spéciale pour les élèves qui seraient issus, alors concrètement, des élèves qui seraient boursiers ou alors issus de zones de revitalisation rurale ou bien de zones d'éducation prioritaire.
On parle aussi parfois, régulièrement, de supprimer cette école d'administration. Qu'en pensez-vous ?
Là, je pense qu'on est complètement à côté du sujet. Enfin, c'est un sujet qui a été porté par le président de la République il y a un peu plus d'un an maintenant, mais qui était, à mon avis, surtout guidé par un souci de communication. On aura toujours besoin de former des cadres de la fonction publique. Enfin, tant qu'on aura un État, en tout cas, on aura besoin de former ces cadres. Donc, je ne crois pas que la question soit de supprimer ou de remplacer l'ENA par autre chose, mais de savoir comment on remédie à ces faiblesses qui sont bien documentées, qu'on dénonce depuis assez longtemps maintenant, et qui tiennent à la fois au mode de recrutement, mais aussi à la manière dont la scolarité se déroule.
Il y a quelques mois, des élèves de l'ENA, dans un document anonyme adressé à la direction, alertaient cette dernière sur un recrutement partiel du harcèlement sexiste au sein de l'école, où aucun dispositif de prévention n'existe. Ils disaient que finalement, quels que soient les dispositifs de recrutement, on sait aussi qu'il y a un concours pour les fonctionnaires, pour intégrer l'ENA. Finalement, il y avait une énorme différence de traitement au sein de l'école, dans le cursus, et que ce traitement avantageait toujours les jeunes hommes venant du centre de Paris et eux-mêmes souvent fils de hauts fonctionnaires, par exemple.
Alors, je partage jusqu'à un certain point. Moi, je suis d'accord avec ce diagnostic qui consiste à dire, donc aujourd'hui, il y a trois concours d'entrée à l'ENA. Il y a les externes, ceux qui sortent de Sciences Po, en gros, les internes, ceux qui étaient fonctionnaires avant, et le troisième concours pour ceux qui viennent du privé. Moi, j'ai vu, en étant en scolarité à l'ENA, à quel point les externes étaient favorisés dans la scolarité, dans les notes qui se donnent à l'oral, donc que ce soit les notes de stage ou les autres. Donc là, il y a clairement une manière de favoriser un certain type d'élèves, généralement masculin, généralement autour de 30 ans ou un peu avant 30 ans, et effectivement assez ambitieux et assez désireux de rentrer dans le moule qui est attendu par un certain nombre de personnes dans cet environnement-là. Après, sur le fait qu'il s'agisse de gens dont les parents sont hauts fonctionnaires, c'est moins vrai, parce que les profils sont un peu plus diversifiés. On a aussi beaucoup de cadres du privé et aussi des gens qui viennent de province d'ailleurs. Mais l'important, c'est qu'ils respectent quand même un certain type de profil.
Et donc, la suite de ma question, c'est est-ce que ça va changer? Parce que même si on intègre des profils différents, si à l'intérieur de l'école, il y a ce traitement à géométrie variable, à quoi ça sert de diversifier le recrutement?
Ben justement, c'est un peu le complément, moi, de cette mesure de création d'une voie spéciale. Ça doit être qu'il faut mettre en place les garanties nécessaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination plus ou moins tacite au sein de l'école pendant la scolarité. Alors après, il faut bien voir aussi qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont écrites, qui sont anonymes durant la scolarité, pour lesquelles il n'y a pas de sujet de discrimination possible. Mais néanmoins, sur par exemple les notes de stage qui sont très importantes dans la notation finale et donc dans le classement de sortie des élèves, là, il faut vraiment s'assurer que les biais qu'on constate aujourd'hui au détriment des concours internes et des troisièmes concours, que ces biais-là, ils puissent plus intervenir.
David Guilbeault, vous avez écrit ce livre il y a 2 ans, L'illusion méritocratique, pour dénoncer un état de fait. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, et je sais que vous faites des choses pour changer cette situation et ce regard aussi une forme de méconnaissance de ces cursus?
Moi, je pense que ce qui est très important, c'est ce que font les associations sur le terrain pour aller, par exemple, dans les établissements scolaires, pour sensibiliser les jeunes au lycée, voire au collège, sur les opportunités que peut leur offrir le secteur public, et donc les concours. Et ça, il y a une association qu'on a créée en 2017 qui s'appelle L'Accordé, qui réunit des jeunes comme ça, fonctionnaires de toutes les fonctions publiques, et qui se sont donnés pour objectif notamment de faire cette mission de sensibilisation. Et donc, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, en complément des mesures qui seront décidées et qu'a annoncé la ministre et qui seront décidées par ordonnance, il faut que l'État, il faut que les collectivités territoriales donnent des soutiens financiers à ces associations qui font une sorte de travail très fin, de dentelle sur le terrain pour aller à la rencontre des établissements et des élèves. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut être fait de manière centralisée à Paris, c'est quelque chose qui doit être fait sur le terrain par des associations. Et ça, c'est le plus important.
Et vous intervenez dans l'éducation prioritaire, par exemple au collège ou dans des zones sensibles, des quartiers populaires?
Ben dans le cas de l'Accordé, oui, on a commencé nos actions surtout en Seine-Saint-Denis, à travers des contacts qu'on avait avec des profs dans des établissements. En fait, c'est très très concrètement, on va avoir un lien un peu privilégié avec un enseignant de tel ou tel établissement, on va lui proposer d'intervenir dans sa classe, et évidemment ça va se faire très naturellement. Et puis ça permet aussi aux élèves de revenir vers leurs profs si ça les travaille, si ça les fait réfléchir. Nous, évidemment, on est toujours disponibles. On peut organiser aussi pour ces élèves des visites, des rencontres là où on travaille, pour leur montrer concrètement ce qu'on fait et donc ce que ça veut dire de rejoindre la fonction publique et d'être fonctionnaire, et concrètement qu'est-ce qu'on y fait. Donc c'est toutes ces choses-là qui participent aussi à construire le parcours de réflexion de l'élève et le projet professionnel.
Merci beaucoup, David Guilbeault. On passe à notre sujet du jour. Je l'ai, je crois, assez finement amené, l'éducation prioritaire.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Et l'éducation prioritaire dont on parle avec, par exemple, une enseignante, Rachel Boutonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des écoles en REP dans le Val d'Oise, autrice de Bonjour maîtresse, journal d'une institutrice d'aujourd'hui chez Hugo New Life. Ça vient de paraître, enfin, à la rentrée. Alors, vous dites pas professeure des écoles, vous dites institutrice?
Je dis instit ou maîtresse, suivant comment Les enfants m'appellent. J'aime bien ce titre aussi.
Les enfants, ils disent toujours maîtresse, oui, quelle que soit
maîtresse ou madame, ça
les réformes. Aziz Gela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, correspondant de l'Académie de Lille, professeur des universités. Vous avez publié en 2020, relativement début d'année, l'éducation prioritaire, bilan et devenir d'une politique emblématique chez l'Harmattan. Vous connaissez aussi très bien le lycée professionnel. Vous étiez venu en parler il y a un moment dans l'émission. Avec nous également Caroline H. Bonjour.
Bonjour.
Maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université d'Aix-Marseille. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Vous avez écrit un ouvrage très intéressant, L'excellence scolaire dans les ZEP, et ça a été publié en janvier aux presses universitaires de Rennes. Et avec nous également François-Régis Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'OZP, Observatoire des zones prioritaires, qui existe depuis 1990. Vous allez régulièrement sur le terrain, même si c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, pour échanger avec des enseignants dans les zones d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, les REP, je le rappelle, parce que c'est un réseau. Et donc, l'OZP vient de publier un intéressant document, assez compliqué tout de même, assez savant, sur la gestion de l'enseignement prioritaire. On va y revenir. On entendra également Asma Chatouani, qui est parent d'élèves à Pantin et qui a beaucoup de choses à dire sur la situation des écoles dans sa ville et en Seine-Saint-Denis. Mais on va commencer avec vous, Rachel Boutonnet. Dans ce livre, vous témoignez du quotidien d'institutrice, puisque c'est comme ça que vous dites, un quotidien qui a été particulièrement bousculé cette année.
Oui.
Avec des difficultés particulières. Comment ça s'est passé pour vous, le confinement et puis le retour en classe pour vous et pour vos élèves?
Le confinement, aussi bien que possible. C'était quand même très bizarre de devoir quitter ses élèves et puis ensuite avoir des relations assez rares avec eux. On restait au téléphone, on les appelait le plus souvent possible, on avait des contacts par mail. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'enfants dont les familles n'étaient pas équipées du tout et qui ont passé tout le confinement à trois sur un téléphone. Donc ça a rendu les choses très, très difficiles. Et au bout de deux mois, ça commençait à être vraiment, vraiment long pour tout le monde. C'était difficile à la maison. Nous, on n'arrivait plus à avoir autant d'impact, en fait, sur les enfants. Même si on les appelait pour leur dire « continue à travailler », ça marchait de moins en moins. C'était de plus en plus conflictuel. Enfin, tout le monde était en train de craquer, quoi, à la maison. Ça tenait plus. Et ensuite, grosse inquiétude des parents fin juin, qui nous demandaient tous... est-ce que vous allez rattraper à la rentrée? Donc on disait bien sûr, on va pas faire comme si il n'y avait pas eu de confinement, les enfants n'ont pas eu classe, ça change tout. Même s'ils ont travaillé à la maison, il n'y a rien qui remplace la classe. Là, le confinement l'a vraiment, vraiment montré. Les enfants qui ne peinent pas, par exemple, à faire un travail écrit avec nous, en une heure, ils peuvent mettre une journée à la maison en faisant une crise toutes les 5 minutes. Donc c'est fou, quoi, l'effet positif de la classe et de la maîtresse sur les enfants. Et là, la rentrée, moi j'ai un CP, donc on est en démarrage, je suis en CP dédoublé, donc c'est presque le paradis pour moi. Mais les témoignages des collègues, c'est très dur, c'est très dur. Les enfants ont perdu beaucoup d'habitudes, d'habitudes d'attention. Ils sont un peu, on dirait familièrement, dans les choux. Enfin, ils ont du mal à s'y remettre. Et il y a des écarts immenses entre des enfants qui ont pu continuer pendant le confinement et d'autres qui n'ont pas du tout pu continuer. Donc ça va être une année très fatigante pour les enseignants, très difficile pédagogiquement.
Et particulièrement dans l'éducation prioritaire, ça a été identifié par nombre d'observateurs, dont évidemment Nathalie Elimas, je le disais, c'est une secrétaire d'État déléguée à l'éducation prioritaire. C'est tout nouveau, c'est depuis la rentrée. Nathalie Elimas, qui était en visite dans une école de la Ragne, c'est dans les Hautes-Alpes, très jolie région d'ailleurs. Et Nathalie Elimas faisait le point sur la période du confinement et les suites, donc, pour ces zones prioritaires dans l'éducation.
C'est un temps finalement qui a été difficile, cette crise sanitaire, mais il faut voir aussi le verre à moitié plein et regarder tout ce qui a été mis en place et tout ce qui peut être de ce fait valorisé et pérennisé post-crise. Donc nous avons vu en effet pendant la crise que des écarts se sont creusés, elle a mis en exergue des ruptures, des fractures sociales, sanitaires et numériques. Et nous avons aussitôt D'abord, je ne pars pas d'une page blanche, donc nous avons renforcé les dispositifs existants et nous les poussons davantage. Je pense notamment, on l'a dit, au dédoublement des classes de CP et CE1. Nous allons également dédoubler les classes de grande section. En sortant de confinement, il y a eu dans les écoles la mise en place des deux S2C. Il y a eu cet été le dispositif vacances apprenantes, colo apprenantes, école ouverte, stage de réussite. Les évaluations de début d'année aussi cette année sont particulièrement importantes, plus les tests de positionnement qui vont nous permettre de répondre aux élèves de façon individualisée pour les accompagner au mieux. Ce sera notamment le cas avec encore des stages de réussite pendant les vacances là de la Toussaint. Et puis dans le second degré, le renforcement du dispositif devoir fait, déjà en place, que nous étoffons.
Nathalie Elimas, que nous avons cherché à inviter aujourd'hui, bon, sans succès. Je dois préciser aussi que les deux S2C, ce sont des dispositifs du mercredi qui comprennent le sport, mais aussi de l'éducation civique, d'après ce que j'ai compris. C'est assez nouveau. Asie Gélab, vous, votre livre commence un peu sur le confinement. C'est plutôt une synthèse hein, des politiques menées dans l'éducation prioritaire. Mais vous tenez compte de ce contexte si particulier. Qu'est-ce qui se rejoue aujourd'hui ou qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui met en tension l'éducation prioritaire?
Alors le livre était effectivement arrivé à terme en termes de rédaction et donc c'était le moment où la crise sanitaire s'est installée et clairement cette crise elle a révélé un certain nombre de fragilités hein, et notamment pour des publics qu'on considère, qu'on appelle souvent les publics les plus éloignés des codes scolaires. Elle a fonctionné aussi comme un miroir grossissant des inégalités, hein, clairement, c'est-à-dire que je vois par exemple les retours que nous avons eus des enseignants, des chefs d'établissement et des personnels d'inspection, jusqu'à quel point, alors qu'ils connaissaient, ils pensaient connaître leurs élèves, ce qui effectivement ça tombe sous le sens dans le cadre d'une relation de proximité, mais là ils ont découvert des réalités encore parfois insoupçonnables, des difficultés matérielles, des difficultés aussi, y compris, alors là on entend le témoignage de la collègue enseignante, c'est aussi la difficulté de qu'est-ce que c'est que l'école hors de l'école, hein, c'est-à-dire au moment où il faut travailler personnellement, donc travail personnel de l'élève, a été véritablement révélateur de ces inégalités d'appropriation de ce qui est attendu. Il y a des éléments aussi positifs qu'on a pu voir dans l'éducation prioritaire, c'est que les enseignants sont un peu plus qu'ailleurs, je dirais, habitués à un travail collectif. Et donc, c'est construit toute une des collectivités, finalement, un peu à distance, mais avec des difficultés, effectivement, qui n'ont pas pu être toujours surmontées. Et je prends un petit peu un témoignage d'un enseignant en REP qui me disait, finalement, si on a quelque chose à retenir de positif de cette épreuve, c'est le fait qu'on a été un peu plus dans les familles depuis le temps qu'on parle d'une coéducation qui est un des éléments aussi attendus, notamment dans le référentiel de l'éducation prioritaire.
Du côté des familles, justement, Asma Chatouani, vous êtes au téléphone, alors depuis pas très loin, vous êtes à Pantin, c'est en Seine-Saint-Denis, parents d'élèves FCPE. Un mot sur le confinement et les difficultés qui ont pu être ressenties dans votre ville à Pantin pour les élèves et leurs familles.
Ce qui a émergé, en fait, c'est effectivement les niveaux, les différents niveaux. Donc, on a beaucoup de familles qui sont déjà en difficulté et qui, avec le confinement, ont perdu pied et se sont complètement éloignées de l'école. Et on le revoit là au mois de septembre où il est très, très difficile de se remettre au travail.
Pour un certain nombre d'élèves, mais pas tous, en fait, et c'est ce qu'on entend, c'est la fameuse hétérogénéité et qui caractérise encore plus l'éducation prioritaire. Caroline H.
Oui, c'est vrai que la question de l'hétérogénéité est centrale et je pense qu'elle est particulièrement en éducation prioritaire. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que, en effet, le niveau moyen des élèves en éducation prioritaire est inférieur à celui hors éducation prioritaire, mais moi, ce que je souligne, c'est que finalement, l'écart est plus important. Parce que donc l'ouvrage que j'ai sorti parle de l'excellence en éducation prioritaire. Donc finalement, on se retrouve en éducation prioritaire avec des élèves en difficulté, en très grande difficulté scolaire. Mais on a également, comme partout, j'ai envie de dire, des élèves qui sont en réussite, voire en très grande réussite scolaire. Donc je pense qu'en fait, l'éducation prioritaire, c'est le lieu de la plus grande hétérogénéité en ce qui concerne le milieu scolaire.
Mais d'ailleurs, le regard sur l'éducation prioritaire a évolué, et ça, vous le décrivez bien dans votre livre, en tout cas, on le comprend bien, Aziz Gelab, d'une vision très globalisante de ce que pouvait être l'éducation prioritaire, à une vision peut-être plus fine. Alors, ça se répercute pas totalement peut-être sur le terrain, mais d'une politique à penser en termes à la fois pédagogique et aussi de formation des enseignants. Alors on le répète, hein, c'est aussi beaucoup théorique, hein, pas forcément répercuté dans les classes, mais on voit que cette question de l'hétérogénéité, elle a fini par elle a fini par prendre beaucoup d'importance.
Alors effectivement, quand on fait un peu l'historique, je vais reprendre un peu ce que disait à juste titre Antoine Prot, dit finalement grosso modo
historien de l'éducation.
Si on voulait faire l'inventaire des différentes réformes qui ont eu lieu depuis quelques années, il insiste beaucoup. Alors c'est le livre est paru en 2013. Hein, c'est dans son livre du changement dans l'école. Il y aurait deux qui sont vraiment emblématiques, la création du baccalauréat professionnel en 1985. Et l'éducation prioritaire mise en place en 81. Ce qui est intéressant à relever, c'est que l'éducation prioritaire, quand elle a été mise en place, nous n'étions pas dans des textes officiels qui insistaient sur la contribution du système éducatif à l'égalité des chances, qui n'apparaît que dans la loi de 89. Or, l'éducation prioritaire a bien mis en avant le principe de l'équité, à savoir introduire une inégalité de traitement pour favoriser l'égalité réelle. Qu'en est-il sur le terrain? Et vous l'avez bien souligné, c'est qu'effectivement, il y a une diversité des situations et des contextes. Et je crois que, à partir des observations qu'on peut faire et le bilan qu'on peut faire, il me semble qu'aujourd'hui, l'égalité des chances et l'équité se construisent essentiellement à l'échelle des territoires, à l'échelle des écoles et des établissements. Parce qu'on a aussi des inégalités en termes de réussite entre des établissements ou des écoles, alors qu'ils peuvent accueillir les mêmes catégorie socio-professionnelle. Donc ça pose aussi la question du lien, ce que vous soulevez, de la pédagogie. Et donc traditionnellement, quand on fait le bilan encore une fois, on s'aperçoit que c'est une des politiques sans doute dans laquelle le pédagogique avait rejoint pratiquement le discours politique. C'est-à-dire que la refondation s'est faite aussi sur l'idée selon laquelle...
Alors la refondation, c'est Vincent Peillon et puis Najat Vallaud-Belkacem. Donc ça commence à dater maintenant. On parle de 2012, 2013.
Et quand on prend, d'ailleurs dans le livre évidemment, je parle un peu de cette histoire récente, à la fois la refondation et puis l'enseignement des fondamentaux comme les dédoublements des CP et CE1.
Alors il y a un enjeu. Le dédoublement, c'est plus récent. Excusez-moi, monsieur. Voilà. J'ai tout expliqué. Le dédoublement, c'était une mesure annoncée par le candidat Macron et mise en pratique très rapidement, dont on a parlé avec Rachel Boutonnet. Ce sont des classes de 12 élèves à peu près, c'est ça?
Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des classes où il y a des endroits où il n'y a pas assez de locaux. Du coup, on ne se retrouve pas à 12 élèves par classe, mais à 24 en étant deux enseignants, ce qui pose des problèmes assez importants. Donc en fait, c'est une mesure fantastique, mais qui n'a pas été, hélas, accompagnée des moyens suffisants pour qu'elle ait eu lieu réellement partout. Donc quand j'entends dire qu'il y a 12 élèves en CP, en CE1 et en grande section, c'est faux dans les endroits où il n'y a pas assez de locaux, et c'est assez courant. Et par ailleurs... Si je peux revenir sur ce que disait Madame
Nathalie Elimas.
Nathalie Elimas, excusez-moi. Quand elle annonce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour répondre aux effets du confinement, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui existait déjà. Les évaluations existaient déjà, les dédoublements existaient déjà. Et les vacances apprenantes, elles ont été très réduites. Les deux S2C, on ne les a pas vues dans la majorité des endroits. Et là, par exemple, pour Toussaint, on nous a annoncé des stages de réussite. Nous, on en a proposé deux dans l'école, ce qui n'était déjà pas beaucoup. On nous l'a réduit à... non pas deux groupes de 10, mais un groupe de 20. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5% des élèves dans l'école qui vont avoir des SRAN. Donc nous, on ne se sent pas du tout soutenus dans les efforts qu'on devrait avoir autour de nous pour aider les élèves. Et c'est un peu le cas en général en REP. On n'est pas assez soutenus, les enfants en difficulté ne sont pas assez aidés, il n'y a pas assez de moyens. Et quand vous parlez de disparité, c'est un réel souci pour les enseignants de voir qu'ils ne peuvent pas aider suffisamment les élèves en grande difficulté. Et du coup, comme ils doivent... passer du temps pour les élèves en grande difficulté, ils ont aussi du mal à faire avancer les élèves qui sont... Et on a un vrai problème, et les enseignants sont en train de s'épuiser dans les REP.
On va revenir sur cette dernière question très précisément, mais sur la question des moyens, Aziz Gelab, peut-être pouvez-vous répondre, parce que on a un État qui dit donner plus de moyens et un terrain qui répond que c'est tout à fait insuffisant.
Tout à fait insuffisant.
Alors, je ne vais pas parler effectivement à la place des ministres, mais de la secrétaire d'État. Ce que je veux dire simplement, c'est que en fait, quand on fait le bilan, et je me place d'un point de vue strictement scientifique, la question c'est pas seulement la question des moyens. Bien sûr, la question des moyens est importante, mais c'est aussi comment on les mobilise. Et par exemple, dès le départ, quand il s'est agi du dédoublement, c'était d'ailleurs une des interrogations qu'on s'est posées pour savoir est-ce que le dédoublement est efficace au niveau des apprentissages. Et on s'est appuyé, par exemple, il y a eu déjà des enquêtes auparavant, il y a quelques années, sur le fait que il ne suffit pas simplement de dédoubler, il faut aussi qu'il y ait des compétences pédagogiques. Et il y a la question aussi
que les enseignants avaient déjà.
Oui, mais quand on fait des comparaisons entre les pratiques enseignantes, on s'aperçoit aussi, c'est pas l'idée de dire qu'il y a des enseignants qui sont plus compétents que d'autres, c'est l'idée aussi de dire que dans certaines circonstances, la question, par exemple, nous on avait fait des observations notamment de dédoublement, le fait que les élèves sollicitent fortement l'enseignant posait systématiquement la question de savoir à quel moment l'élève aussi pouvait prendre un peu de distance pour pouvoir réfléchir. Et donc c'était pour dire que c'est pas seulement une question de nombre, c'est aussi une question de choix pédagogique. Nous avons aussi toute une littérature qui fait des observations sur l'effet maître, l'effet établissement. Ce sont des réalités. Et encore une fois, l'idée, c'est bien de se dire, est-ce que jusqu'à quel point l'éducation prioritaire est réellement prioritaire? Et à partir de là, en quoi la priorité, c'est aussi de s'assurer que les élèves apprennent et que les effets des apprentissages, par exemple, sont durables. Et ça amènera aussi un petit peu de temps pour faire un bilan.
En quoi l'éducation prioritaire est réellement prioritaire? C'est pas du tout une question rhétorique. On va y revenir aussi. Mais vous le disiez, Aziz Gelab, l'éducation prioritaire, on l'entend, elle est beaucoup étudiée, même si on l'a entendu avec Rachel Boutonnet, une certaine solitude peut-être ressentie au sein de la classe. Étudiée donc par des scientifiques, des spécialistes des sciences de l'éducation, par l'OZP également depuis 30 ans. Vous venez de sortir un rapport qui étudie le fonctionnement de l'éducation prioritaire. Pouvez-vous en partager les grandes lignes, François-Régis Guillaume ?
La question qui se pose aujourd'hui, c'est que bon, d'autres priorités apparaissent. Hein. Les moyens qui étaient sur ce qu'on appelait les maîtres plus sont mis dans le dédoublement des classes, etc. Et la question que nous nous posons, est-ce que ces objectifs de constituer des collectifs professionnels, hein, on a vu émerger des collectifs professionnels consistants, pas seulement des avant-gardes militantes, mais vraiment des collectifs, est-ce que ces collectifs vont de nouveau être encouragés?
À vos yeux, aux yeux de l'OZP, c'est ce collectif professionnel, ces enseignants qui, entre eux, ont le temps de travailler et d'échanger, qui peut faire progresser l'éducation prioritaire et donc ses élèves.
Et sortir de la solitude. Si vous voulez, on parle toujours de la formation comme du moyen clé. Bon, là, dans les REP renforcés, il y avait à la fois un formateur REP et il y avait 2 heures par enseignant pour la concertation et 108 heures par an pour les professeurs des écoles. Les remplaçants étaient prévus et on pouvait en concertation décider d'une formation qui aurait lieu un mois plus tard.
Mais l'objectif,
c'est pas du tout la même chose que d'envoyer.
L'objectif, c'est pas seulement que les enseignants travaillent dans de bonnes conditions. Enfin, c'est un bon objectif, mais que les élèves progressent.
Et oui.
Parfois, quand on lit des choses sur l'éducation prioritaire, on parle beaucoup du système, on parle beaucoup des réseaux, alors les réseaux c'est des écoles, et puis finalement l'échelon élève, on le perd de vue.
Déjà, si vous voulez, en 97, dans le rapport Moisan-Simon, etc., bon, ils avaient pu pointer une dizaine de réseaux qui réussissaient beaucoup mieux que la moyenne nationale. Alors le problème, c'est de sortir de cette avant-garde et de faire que la grande majorité des réseaux silence. Et là, on a l'impression que beaucoup s'étaient lancés. Malheureusement.
Non, la question, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour les élèves? Est-ce que c'est bien cette mise en collectif?
Par exemple, j'ai assisté à un séminaire entre professeurs des écoles et professeurs de collège sur le vocabulaire mathématique. Bon, mais l'année d'après, il m'a dit, les différences, on les voit. Et les professeurs de collège ne nous disent plus, vos élèves sont nuls.
Je peux ajouter une petite
Rachel Boutonnet.
Parce que quand on parle des REP, bon, bien sûr, il y a la question de la formation, de la discussion, de la façon dont sont fabriqués les programmes et les horaires. Mais il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, qui est difficile à prendre en compte quand on n'est pas dans la classe, c'est que nous, ce qui nous arrive en fait de très grave, c'est qu'on arrive dans nos classes des dimensions, des problématiques non scolaires, des détresses sociologiques, psychologiques, terribles, dont il faut s'occuper, mais qui ne sont pas normalement dans les prérogatives d'un enseignant. Et il y a aussi, par exemple, des enfants qui ont un degré de violence, une violence d'enfant, mais qui les rend incapables de suivre une contrainte, d'écouter un enseignant sans lui montrer une opposition qui peut monter très très haut. Et nous avons à gérer des choses comme ça qui arrivent de l'extérieur. Et ce qui est difficile moralement pour nous, c'est d'avoir affaire à des problématiques non scolaires dans la classe, un peu comme s'il y avait une intrusion externe. Et ça, c'est épuisant moralement. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'institution, enfin moi en tout cas, je peux parler à mon nom, prenne en compte que l'enseignement en REP, c'est pas majoritairement les enfants qui sont comme ça, mais on a des enfants qui ont des problématiques très graves. Et il nous faudrait, pour nous soutenir, pas seulement des réunions pédagogiques ou de la formation, mais des soutiens externes, c'est-à-dire éducateurs, psychologiques, psychanalystes, des gens avec qui on puisse travailler, mais vraiment en dehors de l'école, sur des heures qu'il faudrait dégager. Et donc, il faudrait se dire qu'un enseignant en REP, il a sa classe et il a aussi des problématiques à l'extérieur pour lesquelles il lui faut du temps de travail. Et cette réalité-là soit prise en compte. Là, nous, on a l'impression que c'est pas pris en compte suffisamment.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Je suis une souris gueule de nuit et je vais, je viens, je pense. Je suis pas du jour gueule d'amour, d'ailleurs je suis de Montparnasse. Cherchez pas de mystère, j'en ai pas. J'ai bon caractère, mais faut pas. Trois pouces et grand-mère, d'un faux pas. Oui, j'aurais pu comme vous. Comme toi être ronde, ronde. Mais c'est foutu, c'est classé, car Dieu m'a préféré longue, longue. Pour ce que j'ai à faire, ça me gêne pas. On peut pas se refaire, gêne ou pas. Passez donc la main dans la main. Et viens, je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Au lieu de ça, je trime. Alors j'imagine que je vois l'automne dans le petit matin. Et je m'abandonne, mais j'en rêve, et c'est bien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. Parfois je pense à ce que j'aurais pu être. La goulue m'a librant, ou la divine peut-être être à les années 30, 31. Monsieur de truc ou de machin, tu prenais ta vertu et t'avais pignon sur la rue. Je me serais payé dans mon fiacre un drôle de tour du monde, monde. Et les montagnes au lac, je l'aurais dansé ma ronde, ronde. En bas à beauté dans mon fiacre, et toi chapeauté. Chapeau claque, on s'en serait allé fouette cocher. Et viens donc voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Non mais t'imagines, au lieu de ça je trime. Je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. Parfois je pense.
L'automne, c'est en ce moment. Pantin, on en parle dans la chanson et on va y aller justement avec vous, Asma Chatouani. Vous avez trois filles scolarisées à Pantin, en CM2, en seconde, bon maintenant en BTS, mais elle a fait toute sa scolarité dans la ville, parents d'élèves en Seine-Saint-Denis à la FCPE. Et vous me disiez, quand on a échangé avant l'émission, que vous étiez
blasé en tant que parent d'élève.
Tout à fait. Exactement. Donc là, il y a un ressentiment qui ressort et je pense que je ne suis pas la seule parent où on est face à un mur qui est l'éducation nationale et qui est en perdition pour nous. Elle ne joue plus son rôle d'éducation, d'enseigner. Il n'est plus là. Et on est attristé en tant que parent de ce constat parce qu'on fait face à des enfants qui sont en totale perdition dans nos écoles. Il faut le savoir.
À quoi vous le constatez donc dans l'éducation prioritaire? Est-ce que vous avez pu, par exemple, faire la différence entre le moment où votre aîné, donc qui a 18 ans, a été scolarisé et la classe de CM2 de votre Benjamin?
Alors, on est passé de ma première fille où j'avais des enseignants qui avaient la motivation, qui donnaient de l'espoir à ma fille, qui donnaient l'envie d'aller à l'école, à des enseignants aujourd'hui qui me disent « je n'en peux plus ». Je suis fatiguée, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Quand vous entendez ça de la part des enseignants, ils ne sont pas aidés, ça fait peur.
Est-ce que vous avez constaté une différence, par exemple, de niveau entre les enfants d'il y a 10 ans et les enfants d'aujourd'hui?
Ah, complètement. Vous avez des enfants qu'aujourd'hui qui sont en CM2 qui ne savent pas lire, qui n'y arrivaient pas il y a à peu près une dizaine d'années. En CM2, aujourd'hui, mon enseignante a dit, alors je l'explique, ma fille est en CM2, et donc elle m'a expliqué en début d'année qu'elle avait 4 niveaux dans la classe. Il y a ceux qui ne savent pas lire, ceux qui sont pas faits pour l'école, donc parce qu'on est dans une école inclusive, effectivement, on les met à l'école, mais ils ont besoin d'un soutien qu'ils n'ont pas, donc elle n'arrive pas avec eux. Il y a les bons élèves, et il y a les moyens. Donc elle a 4 niveaux, et elle doit jongler et faire de la différenciation. C'est quasi impossible pour moi de faire avancer ceux qui y arrivent, et de faire avancer ceux qui n'y arrivent pas. Donc c'est très très compliqué. Comment voulez-vous que ces enfants réussissent? Évidemment, ça nous fait quoi? Ça nous fait des enseignants qui sont fatigués, comme je vous l'ai dit, et qui se mettent en arrêt parce qu'ils sont fatigués et qui sont absents. Et on fait face à cet absentéisme récurrent dans notre école. D'ailleurs, on est en Seine-Saint-Denis, je crois, plus sinistré en termes d'absentéisme. On a un taux d'absentéisme record.
D'enseignants non remplacés, je crois que la FCPE compte hein, les heures de cours manquées qui se transforment parfois en semaines de cours sur l'année.
Tout à fait. Et parfois c'est en semaine et parfois vous avez un remplaçant pour une journée, mais comme il doit aller sur une autre école, donc il se déplace, donc le lendemain vous n'avez personne. Ou alors on repartit les enfants sur les autres classes. Donc c'est un fonctionnement qui ne va pas. Moi je trouve que l'éducation nationale est malade. Rien ne va. Rien ne va. J'ai très peur pour l'avenir de mes enfants aujourd'hui et à tous les échelons malheureusement. C'est que au collège c'est pareil, ça ne va pas. On enlève des heures de soutien qu'on avait. Donc l'année dernière par exemple, c'est pareil. Hein, le collège est en REP+. Les enseignants avaient des heures supplémentaires pour aider les enfants. Donc autrement que dans une classe, qui est bénéfique pour nos enfants dans nos secteurs, ça a été retiré. Ça a été retiré à toutes les REP+. Il faut savoir que des heures qu'avaient nos enseignants, qu'ils n'ont plus pour faire un accompagnement avec ces enfants dont on avait besoin. Pourquoi? On ne sait pas. Bah, évidemment, on va nous dire que c'est par faute de budget, mais oui, on parle de REP+. Donc, soit on met des moyens, soit on ne les met pas. Et alors, à ce moment-là, on ne catalogue pas. Voilà. Moi, honnêtement, je suis très en colère.
REP+, c'est l'éducation encore plus prioritaire. Asma Chatouani, on regarde.
Pour moi, c'est seulement un logo. Vous savez, on avait d'abord le Z, les zones prioritaires. Maintenant, on est passé en REP. Mais qu'est-ce qui a changé entre les deux? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a changé. On a seulement changé de logo, pour moi.
Asma Chatouani, on entend votre colère. Vous dressez un tableau extrêmement sombre de l'école que fréquentent vos enfants. Est-ce que vous êtes posé la question de maintenir vos filles dans l'école publique, par exemple?
Ah oui, la question, elle s'est posée à un moment donné. J'avais très peur du collège et je m'étais dit je ne mettrais pas mes enfants dans une école privée. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi? En fait, on est dans une république qui permet justement l'école gratuite. Pourquoi en venir à les mettre dans le privé? Et je me suis dit, non, je vais faire l'inverse. Je vais mettre mes enfants dans le public et me battre pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc effectivement, c'est de la discussion avec les enseignants, avec l'inspection, pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, on essaie de mettre bout à bout des petits paliers, des petites choses. pour que ça marche pour nos enfants. Et non, je préfère les laisser dans le public et me dire que ça va fonctionner. Voilà.
Et vos filles, scolairement, ça va?
Oui, elles suivent bien, mais c'est parce que je suis derrière, il ne faut pas se mentir. Et ce n'est pas la chance qu'ont toutes les familles. Tous les parents n'ont pas la possibilité d'être derrière leurs enfants. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde.
Bon, pour être tout à fait complet, il faut mentionner aussi que même l'école privée en Seine-Saint-Denis est sous tension en termes de personnel. Vous le confirmez?
Ah si, je le confirme, bien sûr.
Bon, la situation paraît extrêmement grave en Seine-Saint-Denis. On sait que Pantin, c'est aussi la ville où Christine Renon, directrice d'école maternelle, s'est suicidée il y a un tout petit peu plus d'un an en dénonçant ses conditions de travail, la charge de travail, le poids de l'aspect administratif de tout ce qui lui était demandé. Aziz Gelab, quand vous entendez ce qui a été dit et aussi par Rachel Boutonnet, que vous dites-vous? Il semble qu'on ait très peu progressé. Alors, est-ce que c'est la situation sociale, urbaine, qui est plus grave et qu'on n'arrive pas à rattraper? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait et qui a été raté? Est-ce qu'il y a un échec des zones d'éducation prioritaire?
Alors, en fait, on peut dire dans l'absolu, on a eu pas mal de rapports, notamment du CNESCO, rapports de la Cour des comptes, rapport de recherche, hein, pas mal de chercheurs qui travaillent, y compris en allant dans les classes.
Voilà, évidemment, le CNESCO, c'est l'évaluation publique de l'école.
De l'école, et en fait, il y a toujours cette question de savoir finalement quelle plus-value ou quel effet l'éducation prioritaire a pu avoir. Soit on nous dit, je schématise, finalement, il n'y a pas eu forcément d'effet, soit on nous dit, s'il n'existait pas l'éducation prioritaire, la situation aurait été complexe. Je crois qu'il faut tenir compte, effectivement, et c'est un peu ce que j'évoque, le fait que socialement et économiquement, il y a eu des évolutions. Donc on a aussi des territoires, des espaces où la difficulté se concentre. Ce que disait le témoignage à l'instant, c'est qu'effectivement on peut avoir des territoires dans lesquels les enseignants ont l'impression de devoir faire face, et ça n'est pas seulement une impression, c'est des réalités, des difficultés. Et les difficultés ne sont plus simplement des difficultés qu'on pourrait considérer comme des difficultés, par exemple, de type strictement scolaire, mais ce sont des difficultés qui donnent lieu à un regard où on voit les élèves comme des individus, chacun a des difficultés qu'il faut résoudre. Et donc ça entre en tension chez beaucoup d'enseignants entre une vision de la classe qui va progresser, chacun bien sûr à son rythme, et le fait de devoir parfois plus se centrer sur les élèves en difficulté que sur les difficultés des élèves. Et du coup, ça c'est un premier élément qu'on peut dire. Le deuxième, c'est qu'il me semble que dans les attentes autour de l'éducation prioritaire, il n'y a pas des contextes qui se ressemblent. Il y a des invariants qu'on peut retrouver, mais il y a aussi une diversité de situations, de sorte que, si je rappelle un peu l'historique, il y a eu plusieurs relances. Et ces relances, elles avaient systématiquement un objectif qui est de dire on se recentre aussi sur les apprentissages, de manière à éviter que la difficulté l'emporte. Et on sait que dans les établissements à recrutement plus modestes, la tentation peut-être parfois, parce qu'on est saisi, c'est pas parce que c'est un choix, mais c'est aussi de dire finalement, avec ces élèves, on ne peut pas faire ce qu'on devrait faire, et donc ça devient envahissant. Et du coup, il me semble qu'un enjeu fondamental, parce qu'on parle toujours du travail collectif, c'est un enjeu qui n'est pas anodin, vous l'aviez évoqué au tout début dans votre questionnement, qu'en quoi le travail collectif entre les enseignants, mais aussi d'autres personnels, et serait de nature aussi à dépassionner la relation, parce que c'est une relation aux élèves qui est marquée par les difficultés de l'apprentissage, pour considérer que les problèmes que l'on rencontre sont des problèmes strictement professionnels. Et du coup, ça demande aussi un développement professionnel en termes de formation, en termes d'accompagnement. Et on sait, il y a des enquêtes, il y a des recherches actions qui sont extrêmement intéressantes, qui donnent lieu à des évaluations très positives. Mais ça demande évidemment à la fois que l'on s'accorde, qu'on se mette autour d'une table et que l'apport, je crois beaucoup à l'apport de la recherche en termes de développement professionnel, qui permet aussi d'éviter l'isolement que peuvent vivre certains enseignants, et aussi, on a entendu le témoignage de cette maman, à savoir le fait que, finalement, on ne sait pas comment faire, et parfois, il y a tellement de malentendus, y compris dans la relation avec les parents, le fait de dire à son enfant, aux parents, il faut aider votre enfant, comme on a pu le voir aussi lors du confinement, et où des parents disent, mais nous ne sommes pas pédagogues, et en fait, c'est pas l'idée qu'ils deviennent des pédagogues, ou ce que j'appelle les spécialistes par obligation de la pédagogie, mais qu'ils deviennent aussi, qu'ils soient confortés aussi dans leur place, à l'école. Alors, par exemple, je connais pas le contexte dont parlait cette dame, madame, donc la représentante de la FCPE, mais ne serait-ce que la mesure de voir fait qui se fait dans les collèges, La mesure devoir fait, quand on l'explique, quand on le montre aux parents, quand on les invite, ça donne des choses assez intéressantes, de façon à ce qu'ils voient l'intérêt de cette mesure.
De faire donc ces devoirs au sein du collège, dans des heures dédiées, encore faut-il arriver à convaincre son enfant. C'est pas facile, hein. Ça, je sais de quoi je parle. Caroline H, on parlait des élèves en difficulté. Parlons aussi des élèves pour qui les apprentissages fonctionnent bien. Comment est-ce que ces élèves peuvent être assurés de bénéficier d'un enseignement de qualité? On sait que, par exemple, dans zone d'éducation prioritaire, on peut perdre un peu plus de temps pour des raisons de discipline, par exemple. Au collège, ça c'était le rapport du CNESCO, d'évaluation qui date d'il y a environ 3-4 ans, je crois. On sait aussi qu'il peut y avoir cette difficulté, on l'a tout à fait bien dit, à prioriser des élèves qui seraient très bons. Il y a des éléments extrêmement brillants, des élèves très scolaires dans l'éducation prioritaire. C'est une question que vous avez voulu traiter dans ce livre et qui me semble particulièrement intéressante.
Oui, alors pour préciser, hein, quand je parle d'excellence scolaire en éducation prioritaire, je ne parle pas spécifiquement d'élèves précoces ou à haut potentiel. C'est pas du tout le profil d'élèves qui est ciblé. Ce sont ceux qu'on appelle les bons élèves de la classe, ceux qui sont en réussite. Et l'exemple qui était donné des élèves qui ne savaient pas lire en CM2, j'en ai eu aussi beaucoup d'exemples, mais il y a aussi ces élèves en CM2 qui, lors d'une dictée assez complexe, ne font que 3 fautes d'orthographe sur un texte de 15-20 lignes. Donc c'est une réalité qu'il y a dans les classes. Et pour essayer justement de montrer que ce n'est pas un cas isolé, j'ai réalisé une enquête, donc 2500 enseignants d'élémentaire en éducation prioritaire ont répondu. Et le résultat, c'est qu'il y a 2 à 3 élèves en moyenne par classe qui sont considérés comme des élèves en très grande réussite scolaire. Donc c'est une vraie population qui est présente dans ces réseaux et donc qu'il faut prendre en compte. Alors vous parliez de ce rapport CNESCO par rapport au temps perdu en éducation prioritaire. Il est réel, il a été calculé. On est à 20% du temps d'apprentissage qui est consacré en éducation prioritaire.
C'est énorme.
Aux problèmes de discipline. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire quand l'extérieur de la classe s'invite à l'intérieur de la classe et qu'on ne peut pas faire autrement. Donc moi, je mets vraiment... dans mon ouvrage, j'essaye de parler de ce manque à apprendre. C'est-à-dire que les élèves qui sont scolarisés en éducation prioritaire, alors tous, moi, j'ai fait le choix de rentrer sur le prisme de l'excellence. Chaque année, ils ont un manque à apprendre et ils cumulent un manque à apprendre qui fait que, au fur et à mesure de leur curriculum, ils arrivent à la fin et ils n'ont pas acquis toutes les compétences qu'ils auraient pu acquérir parce qu'ils en avaient largement les capacités. Donc c'est vraiment ça, alors, je pense, qui est important.
Qu'est-ce qui se passe en vrai? Certains choix vont être faits par les parents, les familles, de se scolariser ailleurs. Il y a également eu des choix publics, par exemple les internats d'excellence, chers au ministre de l'Éducation nationale, d'externaliser en fait, non pas là pour le coup la difficulté scolaire, mais plutôt ces bons élèves pour leur offrir de meilleures conditions. Enfin, c'est ce qui était présenté comme tel. Qu'en pensez-vous?
Alors, il y a eu les deux possibilités. Il y a eu les dispositifs tels que les internats d'excellence pour externaliser cet accompagnement. Mais il y a actuellement, par exemple, je travaille sur la mise en place des parcours d'excellence qui font un peu suite à la notion de cordée dont on a eu le témoignage en introduction, qui là propose à 30% des élèves en éducation prioritaire des dispositifs pour enrichir l'offre scolaire. Donc, on va avoir ces deux possibilités. Moi, je pense que c'est vraiment au quotidien qu'il faut travailler et prendre en considération ces élèves-là. Et pas uniquement l'arrivée, les internats d'excellence, c'était passer le CM2, on rentrait en 6e, on allait en internat d'excellence. Je pense vraiment, et c'est ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage en reprenant le témoignage des nombreux enseignants qui ont participé à mon enquête, hein, je les remercie d'ailleurs, de montrer qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites en classe pour les prendre en considération et pour essayer de diminuer ce temps justement, de ce manque à apprendre qui est un fait.
Rachel Boutonnet, je voyais beaucoup réagir pendant à peu près tout ce qu'on a dit dans cette émission. Et aussi sur, je voulais vous faire parler de ces choix qu'on fait en classe, de comment faire après tout pour aussi faire en sorte que les bons élèves, ceux qui suivent, ceux qui sont avides aussi d'en faire davantage, puissent s'y retrouver en éducation prioritaire.
On fait au mieux. L'équation, c'est une équation, c'est pour le coup de maître d'école classique, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont, moi je les appelle les petits quand ils sont en CP, et puis il y a les grands, puis il y a ceux qui sont un peu plus lent mais qui fonctionne quand même bien. On est tout le temps en train de jouer à trois balles en même temps et à chercher des solutions pour que les grands avancent, que les petits ne se perdent pas. Et en éducation prioritaire, face aux problèmes qu'on rencontre, on travaille aussi à l'extérieur. On rencontre les parents pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer de faire comprendre certaines choses à l'enfant si jamais il a une attitude qui n'est pas la bonne en classe. C'est un peu comme si vous me demandiez comment on fait notre métier. On le fait tous les jours de se poser la question. On fait avancer les grands et on ne perd pas les petits.
Vous diriez que ce sont des questions éthiques ?
Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y va de l'avenir de chaque personne, de son avenir personnel, de sa liberté. Donc pour nous, c'est la tension qu'on a, la vraie et la bonne, c'est est-ce que ces enfants-là vont se construire correctement pour avoir une vie libre et digne. On est là pour ça, pour que tous puissent l'avoir. Enfin, quand on parle d'enseignants non motivés, moi je pense plutôt d'enseignants fatigués, qui sont toujours motivés, qui croient toujours au fait que les enfants sont capables d'apprendre, que les parents sont capables d'être là aussi, mais que il y a des relais qui manquent pour nous aider à traiter ce qui n'est pas scolaire dans le scolaire.
Ces relais, justement, je voulais y revenir. Et par exemple, avec vous, François-Régis Guillaume, vous nous avez parlé de réseau, de mise en réseau des enseignants entre eux, des différents niveaux, mais aussi avec les professionnels de l'éducation. Est-ce que ça existe, le centre médico-psychologique, par exemple, les orthophonistes de la ville, quand il y en a, et d'autres professionnels de santé? On sait qu'on en manque terriblement, et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça compte de mettre d'autres personnes dans la boucle?
Là, il y a de très grandes inégalités liées au territoire. Hein, à Paris, les principaux de REP me disent « j'ai aucun problème pour trouver une association, un centre médico qui va faire le diagnostic de mes élèves ». Mais il parlait en même temps avec quelqu'un d'Aubervilliers, il dit « moi, il faut un an de délai ».
Aziz Gelab, sur ces relais dont parlait Rachel Boutonnet, toutes ces personnes extérieures à l'école, mais qui peuvent aider les enfants, en plus des familles, et plus largement sur la politique de la ville. On parle aujourd'hui de cité éducative. Alors, est-ce que ça rajoute un échelon de plus? Parce que c'est déjà assez compliqué de comprendre comment tout cela s'ordonne. Ou est-ce que ça peut avoir une utilité pour intégrer tous les acteurs?
Alors avant de dire un mot sur les cités éducatives, peut-être rappeler que dans l'éducation prioritaire, c'était d'ailleurs une de ses particularités, c'était l'ouverture de l'école aussi sur son environnement. Donc en fait, dès le départ, il y avait cette idée de travailler avec les services sociaux, travailler avec les services médico-psychologiques par exemple, de faire intervenir des associations. C'était un enjeu, et d'ailleurs ça a donné lieu par la suite à quelques bilans où on avait des éléments, à la fois des éléments positifs, quand les différents acteurs partageaient la même vision du monde, et parfois on avait des visions très contrastées, parce que ce qui a d'ailleurs été à l'origine de quelques interrogations, parce que les finalités qui peuvent être visées par exemple par une collectivité, à savoir mettre de la vie dans le quartier, ne sont pas exactement les mêmes que les finalités en termes d'apprentissage. Donc la question, c'était aussi de savoir comment tous ces acteurs pouvaient travailler. Et un des écueils, peut-être, qu'on peut souligner, c'est que non seulement il y a effectivement ce que vous disiez justement sur le fait de travailler ensemble en termes de réseau, c'est-à-dire finalement tous les acteurs doivent partager, et en même temps il y a des inégalités, parce qu'il y a des différences. Le rapport d'Azema et puis Mathieu sur l'école et territoire ne dit pas autre chose sur la question des inégalités, des différences d'un territoire à l'autre. Mais il y a aussi le risque qu'on peut voir parfois, c'est un peu l'externalisation du traitement de la difficulté scolaire. Et ça, c'est un risque qu'on a pu voir à travers différentes enquêtes, parce que et on peut le comprendre, dans la mesure où on peut être envahi par des difficultés et on manque de temps pour pouvoir y répondre, peut-être aussi de dire, finalement, c'est tel ou tel acteur qui va prendre en charge l'accompagnement de ses élèves.
Dans le même temps, on fait des grandes cités éducatives avec beaucoup d'acteurs différents. C'est très peu lisible. Ici, c'est très peu lisible pour des spécialistes de l'éducation. Je fais beaucoup d'efforts, donc j'y arrive. Est-ce que ça va l'être pour les familles? Parce que ça, c'est un enjeu extrêmement important, que les familles, ce sont quand même les premiers concernés, comprennent un peu vers qui doit se tourner, comment tout ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un réseau. Je suis pas du tout sûre que les parents en aient la moindre idée, et même des parents diplômés, qui ont leurs enfants dans l'éducation prioritaire.
Alors les cités éducatives se mettent en place progressivement, à partir de 2019, parce qu'il y a peu près de mémoire 80 cités éducatives qui sont labellisées en termes territoire. Elles ne recouvrent pas forcément l'éducation prioritaire, mais souvent il y a de l'éducation prioritaire. L'objectif, c'est qu'elles s'inscrivent dans une politique de, en lien avec la politique de la ville, avec un mode de fonctionnement qui d'ailleurs devrait être observé, puisque se met en place, mais on est vraiment dans les débuts, même si selon les certaines interlocuteurs que j'ai pu avoir, on a pu voir le rôle qui a été joué lors du confinement à travers la continuité éducative cette fois-ci. Donc en fait, le pilotage de ces cités éducatives implique à la fois la présence d'un chef d'établissement, d'un représentant du préfet, et puis on a un représentant de la ville, avec cette idée de pouvoir travailler ensemble. Ça couvre aussi, il y a des enjeux, parce que ça part de 3 ans jusqu'à 25 ans, pour travailler aussi sur l'insertion. Donc en fait, le champ est beaucoup plus large que celui de l'école, et il faudra qu'on voit après, effectivement, est-ce que ce mode de fonctionnement, est-ce qu'il va donner lieu, et c'est un peu le but, à des travaux concertés entre les différents acteurs, et non pas rajouter un échelon qui deviendrait un peu illisible parfois, et c'est un risque, d'où l'intérêt aussi de travailler...
Est-ce que ça pourrait, et ce sera ma dernière question, se substituer à l'éducation prioritaire? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'avenir de l'éducation prioritaire, et certains disent que ça pourrait même disparaître en tant que tel. Est-ce que vous pensez que cet avenir est envisageable?
Oui. Alors, objectivement, je ne peux pas dire que l'éducation prioritaire va disparaître, parce que, comme je disais tout à l'heure, il me semble qu'il y a effectivement des avancées, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a sans doute aussi des améliorations, mais ça, c'était un petit peu ce dont il s'agissait. Quand même, l'éducation prioritaire, il y a un volet éducatif et un volet scolaire, hein, qui est déjà ancré, et on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Le référentiel, par exemple, d'éducation prioritaire, il prend sur le terrain alors qu'il n'a pas de valeur, entre guillemets, réglementaire. Et on voit qu'il s'approprie parce qu'il y a pratiquement tout est dit. Et c'est aussi un de ceux qui l'avait lancé disait effectivement que ce référentiel devrait aussi servir à d'autres contextes que dans l'éducation prioritaire.
Merci beaucoup à tous. On n'aura pas tout dit, mais je pense qu'on aura dit beaucoup sur la manière dont fonctionnait l'éducation prioritaire et ses difficultés. Rachel Boutonnet, je rappelle le titre de votre ouvrage. Bonjour maîtresse, journal d'une institutrice d'aujourd'hui. Vous enseignez dans le Val d'Oise. Votre livre est publié chez Hugo New Life. L'excellence scolaire dans les ZEP, c'est un livre de Caroline H. Qui est publié aux presses universitaires de Rennes dans la collection Padeia. Et l'éducation prioritaire en France, c'est chez L'Harmattan, Aziz Gelab. Merci à lire pour tout savoir sur l'éducation prioritaire. Je prends quelques secondes pour vous parler d'un très beau livre. C'est un ouvrage pour la jeunesse, un album, Il était une fois la différence. Des archéologues racontent le handicap. On a consacré récemment une belle émission au handicap. Ce livre, vous pouvez l'offrir à des enfants, je dirais, à partir de 9 ans. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Le texte est signé Valérie Delattre, les illustrations Vincent Bergier, et c'est donc chez Actes Sud Junior. La semaine prochaine, nous parlerons de l'arabe pour tous, une enquête sur la perte de la langue maternelle avec son auteur, Nabil Wakim, les linguistes Violaine Bigot et Aurore Vincenti, et l'ancien recteur et historien de l'éducation, Alain Boissineau. Merci à Avril Ventura pour la préparation et l'organisation de cette émission, à Philippe Baudouin pour la réalisation. Jean-Frédéric, c'était à la prise de son ce soir. Vous pouvez podcaster Être et Savoir, l'écouter où et quand vous voulez. Sinon, c'est bien sûr le lundi à 21h et demain à la même heure, vous pourrez écouter De cause à effet avec Aurélie Luneau. Between my eyes and the lies, life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving.